Salut à tous, c'est Mathieu au micro. On est mercredi et c'est notre rendez-vous ciné-série de la semaine. Au menu, les sorties de la semaine, comme d'hab. La Cinémathèque, on part encore à la rencontre du Chevalier Noir, mais je vous jure, hein, promis, on arrive à la fin. Le banger de la semaine, retour sur une série qui poursuit les générations. Et on finira bien évidemment avec notre dose de la semaine spéciale, Monsieur Christopher Nolan. Toujours avec ma playlist du moment, préparée aux petits oignons. J'espère vraiment que ça vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous le dire sur les réseaux sociaux. Vous êtes bien sûr sur Radio Ondine. Et plan séquence, ça commence maintenant.
C'est quoi faire du cinéma? Un film de quelqu'un ou film de caméra?
Écoutez, faites très attention.
Plan séquence 98.7 95.2 Radio Ondine.
Et le spectacle continue.
Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Eh bien, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui en ce beau mercredi du mois de juin? Aujourd'hui prévoit une chaleur monumentale. Donc, un petit conseil pour ceux qui ont du mal à supporter la chaleur, allez tout de suite squatter votre salle obscure. La chance, c'est qu'ils sont climatisés. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cette semaine on nous réserve en salle? Et j'espère de belles surprises.
Les sorties du mercredi.
Sur Radio Ondine, 98.7, 95.2.
Si tu lèves les yeux vers le ciel étoilé, il va t'apprendre tant de choses sur ton avenir. Il ne te mentira pas. Il est d'une grande pureté. Ce que tu verras dépassera peut-être ce que tu voulais savoir. Mais tant qu'on a du cœur, l'espoir demeure. Et toi, tu as un grand cœur.
Le monde, Jack. Tout ce que tu aimes. Tout ce que tu vois. Au fil des années, ce monde deviendra plus grand, plus lumineux, plus riche, plus complexe. Tu l'habiteras tout entier. Il y a tout un univers en toi. N'est-ce pas merveilleux?
On va commencer avec notre premier film. Désolé encore pour mon accent anglais. Life of Chuck, un film de Mike Flanagan avec le grand Tom Hiddleston, mon dieu Mark Hamill, et Chiwetel Ejiofor, désolé pour la prononciation. Après avoir hanté nos écrans avec The Haunting of Hill House, Dr. Sleep ou encore Midnight Mass, Mike Flanagan change de registre, mais pas de ton, avec Life of Chuck, adaptation d'une nouvelle de Stephen King issue du recueil It Bleeds. Le cinéaste s'éloigne de l'horreur pure pour explorer un territoire plus intime et mélancolique. Et c'est peut-être là qu'il livre son film le plus personnel et le plus sensible. Le récit construit à rebours suit trois actes racontant la vie de Charles Kranz, donc interprété avec une grâce troublante par Tom Hiddleston, à travers des fragments de souvenirs, de visions et d'émotions. À mesure que le monde s'effondre littéralement autour de lui, on découvre qui était vraiment Chuck, non pas une figure publique, mais un homme ordinaire, profondément humain. L'approche est audacieuse, hein. Le film commence comme une dystopie absurde où les panneaux publicitaires rendent hommage à un inconnu avant de se recentrer sur des souvenirs d'enfance. et enfin un dernier acte bouleversant dans une maison hantée, par les fantômes de l'amour et de la mémoire. Flanagan explore ici le fantastique comme un langage du deuil et de la transmission. Porté par un Tom Hiddleston magistral comme à son habitude, tout en retenue en fragilité, Life of Chuck s'ancre dans un jeu d'acteurs profondément habité. Mark Hamill surprend en mentor des abusés, tandis que Chiwetel Ejiofor incarne le regard extérieur, celui du spectateur, oscillant entre fascination et tristesse. C'est un trio étonnant, parfaitement dirigé. Si l'on sent l'influence de Terrence Malick dans la narration éclatée et les images contemplatives, signées ici par Michael Fimognari, Flanagan reste fidèle à son style. Dialogue ciselé, ambiance feutrée et ce goût pour les zones grises de l'âme humaine. Il prouve qu'il n'a pas besoin d'ombre qui rampe pour évoquer la peur de perdre, de partir, d'oublier. Life of Chuck est une ode à la fugacité de la vie, un poème visuel sur ce qui nous rend humains, inégal par moments, parfois un brin trop lyrique. Le film touche néanmoins droit au cœur, une expérience douce amère comme un dernier regard lancé à quelqu'un qu'on aime avant de s'endormir.
Nous sommes les descendants des meilleurs chasseurs de dragons de tous les territoires que les Vikings ont parcourus. Ces bêtes sont une menace pour toutes nos terres.
Il est temps, Harold.
Faut que je te tue. C'est parce que je suis un Viking. T'entends ? Je suis un Viking ! T'inquiète. Je vais rien te faire. Ils sont peut-être pas aussi méchants qu'on le croit.
Je te rappelle qu'on va être appelés à mener la même guerre que nos parents. Alors choisis ton camp.
Ils ont tué des centaines d'entre nous.
Et nous, on a tué des milliers d'entre eux.
Non, Grandmou,
c'est une amie. Vous devez tous voir ça. Je ne suis pas comme eux.
Waouh, t'as tout perdu. Ton père, ta tribu, ton meilleur ami. Tu comptes faire quoi maintenant?
Un truc idiot, je pense.
Tu l'as fait, ça, déjà.
Un truc fou, alors. À nous de jouer.
Nous ?
Suivez-moi. T'es prêt, mon grand ? Allez ! C'est parti !
Le terreur terrible !
Il fait la taille de...
Vous l'avez deviné, on retrouve bien évidemment le grand croque-mou. On parle aujourd'hui du film Dragon, réalisé par Dean DeBlois avec Mason Temes, Gérard Butler et Nico Parker. 6 ans après la fin émouvante de Dragon 3, Dean DeBlois revient avec une version live-action de sa saga emblématique, adaptation des romans de Criseida Cowell. Véritable défi technique et émotionnel, ce nouveau dragon parviendra-t-il à ranimer la flamme entre les Vikings et leurs dragons ? Réponse : mais oui, et avec panache en plus ! Le film reprend l'arc narratif du premier volet, sorti en 2010, tout en réinterprétant, avec un regard plus mature et une ambition visuelle renouvelée, on y retrouve Harold, adolescent solitaire et fils du chef stoïque, dans un village de Berk où les dragons sont craints. Sa rencontre avec Croque-Mou, tout le monde est fan de Croque-Mou, dragon blessé et redouté, change son destin et celui de son peuple. Dean DeBlois ne se contente pas d'un simple copier-coller, il étoffe les enjeux, densifie les relations et offre un souffle épique bien plus palpable grâce à la prise de vue réelle, et pourtant l'émerveillement reste intact. Le jeune maçon Tamès, révélé dans Black Phone par exemple, insuffle à Harold une vulnérabilité sincère et une détermination émouvante. Nico Parker, qu'on a pu voir dans The Last of Us, campe Astrid avec une présence farouche et charismatique, offrant une belle dynamique de duo. Quant à Croque-Mou, recréé en CGI avec une précision bluffante, il garde son charme enfantin et ses mimiques inimitables, une prouesse visuelle et émotionnelle. Au-delà de l'aventure spectaculaire, Dragon demeure une fable sur la peur de l'autre, la tolérance et le lien entre l'homme et la nature. Les scènes de vol sont toujours aussi grisantes et la musique de John Powell, à nouveau générique, réveille instantanément notre fibre nostalgique. On vibre, on rit, on serre les dents et on pleure, juste un petit peu. À l'heure des remakes souvent sans âme, Dragon se distingue par sa sincérité. Le film parle aussi bien aux enfants émerveillés qu'aux adultes qui ont grandi avec la trilogie. Il réussit à raviver une franchise sans la trahir, et rien que pour ça, il mérite notre respect.
Quand je veux partir, je pars. Mais c'est quand je veux, sans que tu me prennes la tête.
Non mais oui, Katia, mais t'es en boucle, là.
J'aime pas trop changer mes habitudes. Je suis hypersensible à la lumière et au bruit. J'ai toujours eu des relations compliquées. On n'aurait jamais dû se remettre ensemble.
Moi, tous les moments que je passe avec toi, ils sont tellement remplis.
J'ai pas arrêté de passer d'un travail à un autre, parce qu'on me reprochait de pas m'intégrer assez au groupe.
Qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce que tu fais là?
Bah moi, je viens juste prendre un dossier en dessous de toi.
J'ai vu Thomas, on peut dire qu'il m'a largué comme une sombre merde.
Il était pas du tout intéressant, il était même complètement inutile.
Katia!
Est-ce que je suis virée?
Bah non, non, puis c'est vraiment pas le sujet d'une réunion de rédaction. Tu passes avec Julien sur l'autisme?
Alors, les femmes autistes adultes dites à haut niveau de fonctionnement, celles qu'on appelait autrefois Asperger, parviennent mieux que leurs homologues masculins à s'adapter et à se camoufler socialement.
Il y a des moments où je suis vraiment épuisée. Et quand je vois les autres, je me demande comment ils font.
Katia, t'énerves. Laisse-moi !
Va pas t'imaginer que ça a été facile pour moi. Hein. S'entendre dire constamment « votre fille ne parle pas assez, est trop timide ».
On peut pas vivre tout le temps reclus, là, comme si les autres n'existaient pas.
En fait, c'est que je me demande si je suis pas autiste.
Autiste.
Ouais. Katia, c'est important de comprendre. Vous n'êtes pas incapable. Vous n'êtes pas inférieure. Vous êtes différente.
On termine avec le film Différente de Lola Doyon avec Jenny Bess, Thibaut Evrard et Mireille Perrier. Avec Différence, Lola Doyon signe un film aussi rare que nécessaire. Sous ses airs de comédie romantique atypique, le film explore avec pudeur et justesse un sujet encore peu représenté à l'écran. La découverte tardive d'un trouble du spectre de l'autisme chez une femme adulte. Un pas de côté bienvenu dans le paysage du cinéma français. Jenny Bess, connue pour son interprétation sur scène comme au cinéma, incarne Alice, une illustratrice indépendante, solitaire et ultra sensible. Rien chez elle ne crie la différence. Et c'est justement tout l'enjeu du film. Montrer qu'on peut vivre des années sans mettre de mots sur un fonctionnement neurologique distinct. Un diagnostic de TSA, arrivé presque par hasard, va bouleverser son rapport aux autres, mais surtout à elle-même. Plutôt que d'en faire un drame, Lola Doyon choisit l'humour délicat et les petites situations du quotidien pour raconter cette prise de conscience. Une main qu'on ne serre pas, un regard qui fuit, un monde trop bruyant, des codes sociaux flous, différentes, nous plonge dans une perception du monde intensément sensorielle, parfois déroutante, mais toujours sincère. Une romance qui naît entre Alice et Vincent, donc Thibaut Evrard, parfait en éducateur sportif à la fois gauche et bienveillant, évite les clichés du genre. Pas de grandes déclarations, en pleine pluie battante, mais des silences pleins, des maladresses touchantes et des gestes simples qui prennent une profondeur insoupçonnée. C'est doux, bancal, mais infiniment juste. Mireille Perrier, une mère un peu dépassée mais profondément aimante, apporte une touche intergénérationnelle bienvenue. Rappelons que la reconnaissance du TSA chez les femmes est un combat encore récent, souvent lié à des malentendus familiaux anciens. Différente ne cherche pas à expliquer l'autisme, il l'habite. Et c'est là sa plus grande force, grâce à une mise en scène sobre et sensorielle, une bande-son minimaliste et une photographie feutrée, le film invite le spectateur à ralentir, à écouter autrement, à ressentir différemment comme son héroïne. Pas militant, mais profondément humain, différente, et de ces films qui, sans avoir l'air, changent doucement le regard du public. Et dans le tumulte de l'époque, c'est presque un acte de résistance. On démarre notre playlist de la semaine avec Simia et son titre « La fin du film ». Et on se retrouve juste après. À toutes.
Je veux pas refaire les mêmes erreurs, mais je crois que c'est trop tard. Je viens de vomir ce qui me restait d'amour propre sur le trottoir. Je croise mes voisins qui me jugent comme si c'était pas de leur faute. C'est pas ce qu'il leur faut pour s'en vouloir. Trois quarts de ma journée à me poser des questions de merde. C'est sûr je vais pas sortir, pourtant je me demande quand même qu'est-ce que je mets. J'attends la fin du monde mais c'est juste la fin du film. Donc j'en remets un autre plus fort pour pas entendre le bruit de la ville. Ma copine voudrait me soigner mais moi je veux juste m'éloigner. Tous ceux qui m'aiment finissent par couler, je veux pas la voir se noyer. Les doutes s'agrandissent, les murs rétrécissent.
En colère à 36, moi j'aime plus être ici.
J'ai aucun but, aucun plan et aucune envie. J'suis ni mieux, ni pire, j'suis juste un autre. Tout s'écroule autour de moi, pourtant je reste en vie. Toutes les nuits je me contente de tenir jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube, 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 te tenir jusqu'à l'aube. J'entends l'enfant du monde, mais c'est juste la fin du film. Mais j'en mets un autre plus fort, mon corps dans le bout de la ville. Donc j'en mets un autre plus fort, mon corps dans le bout de la ville. J'suis plus qu'une voix comme dans Heur, j'entends rien qui cogne dans le cœur. Et je sais très bien comment je meurs. Je suis juste un corps perdu comme le médiator. T'en fais pas, j'ai commencé le son en sachant que j'avais déjà tort. Les yeux fermés, tout se ressent. Mes potes ont juste un autre nom. Et chaque week-end, tout ce que je ressens, c'est que j'en ai plus autant. Je casse l'ambiance, je suis sûr qu'ils veulent pas me voir. Faut bien que je tienne, alors j'y retourne chaque soir. J'ai aucun but, aucun plan et aucune envie. Je suis ni mieux, ni pire, je suis juste un autre. Tout s'écroule autour de moi, pourtant je reste en vie. Toutes les nuits, je me contente de tenir jusqu'à l'aube. Tenir jusqu'à l'aube, jusqu'à l'aube, tenir jusqu'à l'aube, jusqu'à l'aube, tenir jusqu'à l'aube, jusqu'à l'aube, tenir jusqu'à l'aube. J'attends la fin du monde, mais c'est juste la fin du film. J'en mets un autre plus fort, mon parent dans le bout de la ville. Donc j'en mets un autre plus fort, mon parent dans le bout de la ville.
La Cinémathèque sur Radio Ondine.
Formidable, c'est formidable.
Aujourd'hui dans la Cinémathèque, on continue encore et toujours avec notre nouvel opus du Chevalier Noir. Un film cette fois de Joel Schumacher, son seul et unique d'ailleurs, avec le grand Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman ou encore Chris O'Donnell. Film qui date de 1995, et c'est parti. En 1995, deux ans après le succès controversé de Batman Return, donc qu'on peut retrouver dans l'épisode précédent de Plan Séquence, Warner Bros. Tourne la page. L'univers gothique, torturé et baroque de Tim Burton, trop sombre et trop subversif aux yeux des studios, et ça c'était à cette époque, hein, laisse place à une version plus accessible et commerciale de l'homme chauve-souris. Joel Schumacher est appelé à la barre. Sa mission, redorer le blason de justicier de Gotham auprès du grand public, notamment les plus jeunes, et relancer la machine à produits dérivés. C'est surtout ça. Le résultat est Batman Forever, un film de super-héros, couleur criarde, aux antagonistes cabotins et à la mise en scène survoltée qui divise encore aujourd'hui les fans, et j'en fais partie. Mais réduire Batman Forever à un simple produit marketing serait passé à côté de ses enjeux et de sa place charnière dans l'histoire cinématographique de Batman. Ce dossier revient en profondeur sur ce film de transition entre ambition artistique et exigence commerciale. Après deux films réalisés par le grand Tim Burton et incarnés par Michael Keaton, la saga Batman connaît une cassure nette. Si Batman de 89 était un triomphe, Batman Return de 92, bien que salué par une partie de la critique, effraie les annonceurs par son ton lugubre et sa galerie de personnages dérangeants. McDonald, entre autres, se plaint d'un univers jugé trop non adapté aux enfants. Warner, c'est la première fois vraiment entre vous et moi où je vois que la puissance du merch, donc le merchandising issu des films, des franchises et des séries, a un impact aussi important sur une franchise cinématographique. Warner décide alors d'orienter la franchise vers un ton plus léger. Joel Schumacher, connu pour ses talents de styliste visuel, est choisi pour insuffler un nouvel élan. Accompagné d'un nouveau scénariste, Akiva Goldsman, Tim Burton reste producteur, mais son influence est désormais marginale. Michael Keaton, en désaccord avec la direction artistique prise, quitte le projet. Val Kilmer reprend la cape du justicier. Schumacher opère un virage esthétique radical, exit les ruelles gothiques et les gargouilles pluvieuses. Gotham devient une mégalopole futuriste néonisée. Croisement improbable entre Metropolis et un carnaval géant, tout semble surgir d'un fantasme pop des années 60 jusqu'aux tenues moulantes des héros qui n'hésitent pas à afficher leurs fameux tétons en plastique. Et ça y est, c'est parti, George Clooney n'a qu'à bien se tenir. La mise en scène elle-même prend un tournant plus dynamique, voire hystérique, angle caméra extrême, plan incliné, éclairage criard. Le film s'inscrit dans une logique de grand spectacle total, quitte à délaisser la cohérence visuelle. Je pense qu'ils ont voulu créer une véritable cassure entre les deux films de Burton et son univers et celle de Schumacher, vu qu'ils étaient vraiment dans la réinvention de la franchise Batman. Mais derrière cette débauche d'effets de niche, une tentative sincère de s'adresser à un public plus large. Le Gotham de Schumacher n'est pas moins légitime que celui de Burton, par exemple. Il est simplement l'expression d'un autre lecteur, d'une autre lecture du personnage, plus enjouée, moins introspective, mais tout aussi marquée. Alors, par rapport au film, on est face à un casting XXL en star. On a donc Val Kilmer qui propose un Bruce Wayne plus contenu, presque évanescent, moins torturé que Keaton. Il campe un héros en quête d'équilibre entre son devoir et son désir d'une vie normale. On retrouve la grande et la magnifique Nicole Kidman qui incarne la psychiatre Chase Meridian, figure glamour mais sous-écrite, dont la fonction narrative semble surtout romantique, et c'est bien dommage parce que je vous rappelle que Nicole Kidman joue Catwoman, bien évidemment, et elle a un rôle qui est vraiment... Enfin, on la voit presque pas, quoi. Bref. Chris O'Donnell, dans le rôle de Dick Grayson, Robin, ajoute une nouvelle dynamique mentor-élève. Sa présence prépare un élargissement du Bat-Univers, renoue avec l'héritage des comics. Chris O'Donnell, qu'on retrouvera bien sûr dans le suivant, celui avec George Clooney. Et on devait avoir toute une franchise de films sur l'univers de Robin, hein, parce qu'il y a eu Robin avant Batman, pendant Batman et après Batman quand il part. Ça n'a jamais été réalisé. Ça a toujours été mis dans les tuyaux, mais ils sont jamais passés à l'acte. On retrouve le grand et le magnifique Jim Carrey en Edward Nigma, l'homme mystère. Il livre ici une performance survoltée, inspirée du Joker, un peu de Frank Gorshin, de la série télé de 66. Il incarne la démesure du film. Et fascine autant qu'il fatigue, c'est vrai. Mais je pense que dans ce film-là, entre lui et Tommy Lee Jones, c'est vraiment les deux on retient leur personnage, en fait. Et donc, on termine par Harvey Dent, double face, donc joué par le grand Tommy Lee Jones, cabotin sans retenue, souvent au détriment de la complexité du personnage. Et on retrouvera bien évidemment ce personnage dans la franchise de Nolan, où on en apprendra beaucoup plus sur la naissance de double face. Le duo de méchants souffre d'un manque d'équilibre, chacun tente de voler la vedette à l'autre sans trouver un réel énergie. Derrière ces artifices, Batman Forever propose néanmoins une trame thématique intéressante, celle de la dualité. Bruce Wayne est confronté à ses souvenirs d'enfance et sa peur de l'abandon, et à la place qu'il veut accorder à Batman dans sa vie. Robin, orphelin comme lui, agit comme un miroir qui le renvoie à ses propres blessures. Le titre même du film Forever évoque cette question du masque. Batman est-il une phase, une réponse à la douleur ou une identité permanente? Cette profondeur psychologique reste en surface, trop souvent éclipsée par le rythme effréné et les scènes d'action grandiloquentes, mais elle existe bel et bien. À sa sortie, le film est un succès commercial, il relance les ventes de jouets, séduit une partie du jeune public et devient le film le plus rentable de 1995 aux États-Unis, mais il divise la critique. Certains saluent son rythme et son audace visuelle, d'autres fustigent son manque de cohérence et sa superficialité. Les femmes les plus fidèles regrettent la perte de noirceur et de maturité initiée par Burton. C'est une certitude. Nous savons tous que Batman n'est pas un personnage de cartoon ou de cirque, mais bel et bien un anti-héros noir, torturé, extrêmement sombre et violent. Pourtant, avec le recul, Batman Forever apparaît comme un jalon essentiel. Celui d'un Batman caméléon, capable de changer de ton, de forme, de style. Il annonce autant les excès de Batman et Robin, dans lequel on a déjà vu dans le premier épisode de cet arc narratif, que la nécessité future d'un retour aux sources que Christopher Nolan concrétisera 10 ans plus tard. Batman Forever n'est pas un chef-d'œuvre, mais il n'est pas non plus le film décérébré qu'on lui a longtemps reproché d'être. Il est donc le produit d'une époque, d'une stratégie de studio, mais aussi d'une vision artistique singulière. Il mérite aujourd'hui d'être regardé avec un œil nouveau, non pas comme une trahison, mais comme une variation, une parenthèse psychédélique dans la mythologie du justicier de Gotham, où les néons remplacent les ombres, mais où subsistent les mêmes interrogations fondamentales. Qui est vraiment Batman? Jusqu'où peut-on porter le masque? Et que reste-t-il de l'homme derrière la légende?
Le banger de la semaine. Radio Ondine 98.7 et 95.2.
Bienvenue sous le soleil de Sunnydale. Qui pourrait imaginer que sous les rues de cette petite ville si paisible se cachent les forces du mal? Nous devons notre seule chance de survie...
À chaque génération, il y a une élue.
...à une lycéenne.
Allez, viens en rythme !
Buffy, tu es la tueuse.
Est-ce que je m'exprime au nom de tous si je dis un ?
Choisi pour se battre.
Je m'appelle Buffy et toi, tu disparais.
Entraînée pour être la meilleure.
Si tu veux, on va t'aider et on pourrait former une bonne équipe.
Élue pour tuer.
Les forces du mal sont dehors. On les attire, tu les tues. Et c'est la fête.
Elle s'appelle Buffy. Et aucun démon...
Ne t'inquiète pas, je ne meurs pas.
Aucun vampire, aucune créature de l'enfer...
Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton enfance ?
Ne l'arrête.
Attention !
Je veux être comme les filles de mon âge. J'ai juste envie de sortir.
Buffy contre les vampires. Combattez le mal, ramenez Buffy chez vous.
Si les monstres débarquent, bipez-moi.
Bon, je vais pas faire semblant d'être objectif cette semaine. Buffy, c'est pas juste une série, c'est une religion. Une tradition, un pèlerinage annuel que je fais avec Mélo, oui, celle de Raw Music, religieusement. Comme d'autres ressortent leurs pulls moches de Noël ou pleurent devant Koh-Lanta, moi c'est Buffy. Chaque année, je m'en refais les 7 saisons et chaque année, je redécouvre que cette série est un miracle télévisuel. Disponible en intégralité sur Amazon Prime Video, donc plus d'excuses pour ne pas plonger la tête la première dans la bouche de l'enfer. Alors pourquoi c'est toujours un banger 27 ans plus tard? 27 ans, ça nous rajeunit pas ça. Déjà parce que Buffy, c'est la lycéenne badass qui tabasse des démons entre deux cours de bio, tout en gérant ses crushs, ses potes, ses devoirs et l'apocalypse, hein, le tout en bottes à talons. Mais c'est aussi Willow, la geekette, qui devient la sorcière la plus puissante de la planète, ou encore Alex, ce pote loyal qui n'a aucun pouvoir mais compense avec de l'humour, du cœur et un ratio de blagues nulles absolument exceptionnel. Giles, le bibliothécaire qui cite Milton pendant qu'il aiguise des pieux, ça on l'aime. Et bien sûr Spike, le vampire punk à blouson de cuir qui a autant de flow que de trauma. C'est une série qui a tout inventé, hein, le monstre de la semaine, le format feuilletonnant, les épisodes chantés... Et même les ruptures déchirantes en slow motion, hein, sur fond de Sarah McLean. Le retour de Buffy, parce que c'est surtout pour ça que je voulais vous parler de ça. Ouais, mais pas comme on l'attendait. Hein. Attention, hein. Un reboot ou une suite est bel et bien en préparation. Ce n'est pas une rumeur de forum de fans, c'est officiel et confirmé. D'ailleurs, je tiens à l'annoncer. J'ai eu la chance d'apprendre hier via les réseaux sociaux que l'actrice qui sera l'actrice principale, parce que non, ce ne serait pas, ça ne va pas être Sarah Michelle Gellar. L'actrice principale de cette série vient d'être castée et on vient de lui annoncer, donc Sarah Michelle Gellar, qui est aussi la productrice de la série vient de lui annoncer en direct qu'elle était sélectionnée pour jouer donc le rôle principal de la série. Donc par contre, elle remettra pas, Sarah Michelle Gellar, les steaks pour bastonner du vampire. Elle l'a dit elle-même, j'ai passé l'âge de battre en mini-jupe contre des monstres en mousse, mais elle sera productrice exécutive et pourrait apparaître comme mentor dans cette nouvelle histoire. Et là, j'en pleure juste un peu. En fait, pour ceux qui connaissent Buffy, l'après-série, il y a eu une bande dessinée. Et en fait, on apprend Buffy que plusieurs années plus tard, monte une espèce d'école avec que des tueuses où elle leur apprend les formes. Et moi, je pense que, attention, ce n'est qu'une supposition, qu'on va tendre vers ce, plutôt ça, mettre en série l'œuvre graphique, en fait. Donc, la nouvelle Slayer sera jouée par Ryan Kiera Armstrong, jeune actrice prometteuse, dans un rôle plus introverti, mais décrit comme brillant et redoutablement intelligent. Pas une Buffy bis, donc, mais une héritière. À la réal, hein, on retrouve Chloé Zhao, hein, rien que ça, qui l'oscarisé de No Man's Land. Autant dire qu'on risque d'avoir de la lumière dorée sur des cimetières californiens. Et le concept, ce sera plus une série préquelle qu'un vrai reboot, on sait pas trop. On garde l'univers, on passe le flambeau à une nouvelle génération, mais on respecte les codes, les enjeux et, espérons-le, les Black Forest d'Alex. Parce que je tiens à dire, mis à part Sarah Michelle Gellar, je n'ai encore pas d'autres infos sur le casting et s'il y aura des membres du casting originel. Je tends à dire potentiellement peut-être qu'ils feront leur apparition. C'est la grande mode en ce moment, hein. Je parle bien évidemment par exemple de Malcolm in the Middle, qui vient de finir son tournage, enfin qui est en fin de production, qui sera diffusé sur Disney+, avec donc 20 ans plus tard, avec le cast original, sauf Dewey. Mais ça, tout le monde l'a su et c'est dommageable, mais chacun voit midi à sa porte. Il préfère rester dans sa petite vie de son côté, il a bien raison. Donc pourquoi remater Buffy aujourd'hui? Parce que c'est une série plus fine qu'elle en a l'air, parce que les ados d'hier peuvent y trouver une relecture plus adulte aujourd'hui, et ça c'est une certitude, et surtout parce que franchement, voir Sarah Michelle Gellar foutre des mandales à des vampires avec des punchlines à la pelle, ça met tout le monde d'accord. Et si vous n'avez jamais vu la série, mon dieu, qu'on vous mette en place publique, j'ai envie de dire, vous avez survécu à 7 saisons d'Apocalypse sans Buffy, ben franchement, respect. Mais c'est peut-être le moment de vous y remettre, et allez regarder avec vos ados. Nous on l'a fait avec les nôtres. Ça a été un régal de regarder ça en famille. Bref, on poursuit en musique avec Il n'y en a pas deux du duo Joji Redback et Hakim Beat. Et on se retrouve juste après pour le DOS de la semaine.
Yeah. jeunesse de la semaine.
Depuis ses débuts indépendants jusqu'à ses blockbusters métaphysiques, Christopher Nolan a su imposer une griffe unique dans le paysage cinématographique mondial. Réalisateur britannique, né à Londres en 70, Nolan est aujourd'hui l'un des cinéastes les plus influents de son époque. Cerveau rigoureux, conteur ambitieux, maître du montage non linéaire, il s'est toujours tenu à la croisée des chemins entre divertissement spectaculaire et réflexion philosophique, entre classicisme hollywoodien et audace narrative. Avant de plonger dans sa vision du Chevalier Noir, il convient de s'attarder sur le parcours de ce cinéaste qui a redéfini le blockbuster d'auteur au XXIe siècle. Nolan commence sa carrière avec Following en 98, thriller noir fauché, mais déjà construit autour d'une temporalité éclatée. C'est avec Memento qu'il attire l'attention mondiale. L'histoire d'un homme amnésique raconté à rebours devient une référence immédiate du récit Puzzle. Il enchaîne avec Insomnia en 2002, remake d'un polar norvégien avec Al Pacino et Robin Williams. Ce film, plus classique dans sa forme, marque son entrée dans le système hollywoodien tout en confirmant son talent de mise en scène atmosphérique et sa fascination pour la psyché tourmentée. Entre 2005 et 2012, Christopher Nolan s'empare du mythe de Batman pour livrer une trilogie d'une cohérence thématique et esthétique rare. Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Il y aborde la peur, le chaos, le sacrifice et offre aux super-héros une profondeur existentielle rarement vue à l'écran. Il impose également une esthétique réaliste, un ancrage dans le monde contemporain avec des antagonistes symboliques plus que cartoonesques. Joker, Bane, Ra's al Ghul deviennent les reflets idéologiques de Bruce Wayne. Cette trilogie marque un tournant, les super-héros peut-être sérieux, politique et philosophique. Le cinéma de Nolan est obsédé par le temps, la mémoire, la perception, en témoigne Inception, rêve dans le rêve, métaphore du cinéma lui-même, film d'espionnage onirique, c'est un succès mondial qui confirme sa capacité à conjuguer complexité et efficacité. Interstellar de 2014 explore le temps comme une force physique et affective, tandis que Tenet en 2020 pousse la logique à l'entropie inversée jusqu'au vertige. Même Dunkerque, film de guerre, déconstruit la narration en trois temporalités imbriquées, terre, mer, air, sans jamais sacrifier la tension dramatique. Nolan ne filme pas seulement les intrigues, il filme des concepts et parvient à les rendre émotionnellement accessibles. Christopher Nolan travaille quasi exclusivement avec de la pellicule 70 mm et de l'IMAX, préférant les effets pratiques aux images de synthèse et collaborant avec des compositeurs comme le grand Hans Zimmer ou Ludwig Göransson pour construire des univers sonores immersifs. Il écrit la plupart de ses scénarios avec son frère Jonathan Nolan et accorde une importance capitale au montage, souvent confié à sa fidèle monteuse Jennifer Lame et précédemment, à Lee Smith. Ces films sont caractérisés par des structures narratives non linéaires, des personnages relationnels en crise émotionnelle, une mise en scène précise, géométrique, architecturale et une fascination pour les systèmes clos. La ville, le rêve, la boucle temporelle. Nolan a prouvé qu'un auteur pouvait triompher dans le cadre contraint des studios. Il a réussi à garder un contrôle créatif total sur ses films tout en générant des succès massifs au box-office. Il refuse le numérique, promeut les projections en pellicule, milite pour le maintien des salles de cinéma et symbolise une certaine idée du cinéma d'auteur grand public, ambitieux, cérébral et exigeant. Avec Oppenheimer, il passe au biopic mais garde sa logique de construction fragmentée, son obsession pour les dilemmes moraux liés au progrès. Le film construit autour de la figure ambivalente de J. Robert Oppenheimer remporte 7 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur, consacrant définitivement Nolan au panthéon du cinéma mondial. Pour ma conclusion, Christopher Nolan n'est pas seulement un réalisateur talentueux, il est un ingénieur narratif, un architecte de l'imaginaire, un passeur entre les mathématiques et l'émotion, la raison et l'instinct. Il a façonné un cinéma où l'intelligence n'exclut jamais le spectaculaire et où le spectateur est invité à réfléchir autant qu'à ressentir. À l'orée de notre exploration de sa trilogie Batman, ce dossier pose les bases d'un regard plus large sur ses œuvres qui ne cesse d'interroger le rôle du héros, du temps et de l'homme face à ses choix. Nolan ne nous dit pas quoi penser, il nous invite à penser différemment. Et voilà, encore une fois, on vient de terminer un épisode de Plan Séquence. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous donne envie d'aller au cinéma chaque semaine ou envie de découvrir de nouveaux films et séries. Et n'oubliez pas, hein, le cinéma, c'est pas juste des images qui bougent, hein, c'est des émotions qui collent aux répliques. Le replay est comme toujours dispo tranquillou bilou sur radioondine.fr et toutes les plateformes de streaming. Et si vous n'êtes pas encore passé par notre Insta, vous ratez clairement les bonus, hein. Comme d'hab, on partage des coulisses, de l'actu, les coulisses de l'émission. Et d'ailleurs, un petit concours va arriver cette semaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous fais gagner des places de cinéma. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on continue et on arrive sur la fin. Hein, vous inquiétez pas. Notre descente dans l'univers Batman. Et là, on entrera dans la trilogie Christopher Nolan. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai parlé aujourd'hui dans le dose de la semaine. Bref, vous savez où nous trouver. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire. Partagez vos coups de cœur ou vos idées. Moi, j'adore papoter séries et ciné avec vous. Et comme d'hab, on se quitte en musique avec un groupe que j'ai tout juste découvert qui s'appelle les Retardataires et leur titre Forêt Enchantée. N'oubliez pas, je mets la playlist et les liens des artistes chaque semaine sur Instagram. On se retrouve très vite, même heure, même fréquence, avec toujours plus d'actu, plus de pépites et de bangers. Peut-être même un peu de mauvaise foi, comme d'hab, parce que bon, hein, on est cinéphile, on l'est pas. En attendant, on continue à voir des films, à en discuter, et surtout, n'oubliez pas le popcorn.
Radio Ondine, 98.7 et 95.2.
Eh hey, mais oh, regarde-moi ça, celle-là, comme elle est belle.
Oh oui, elles sont belles, elles sont bien mûres. Eh hey, mais il y en a là-bas aussi, je pense.
Oh oui, viens, allons-y, oui. allons-y.
On se baladait dans la forêt, on cherchait des framboise, on est tombé sur des tarés, les Walt Disney sont barges. Hein, pendant qu'on se baladait, ben on s'est perdu.
Tiens. Mais ouais, mais c'est ta faute.
Quoi? Merde, on est où là? Faudrait pas rester, mais ils arrivent.
Trop tard,
on s'est fait raqueter par les aristochats.
Ah, ils ont pris mes pompes.
Mais les chats, ça met pas de chaussures.
Dépouillés, de la tête aux orteils. On se promène sans nos pompes et sans oseille. On voit Alice qui nous dit wesh, oh là, si vous voulez des trucs mortels, les gars, j'ai quelques merveilles. LSD, champignons, MDMA. Y'a de la mecque, des enfêtes et des extras.
Si vous balancez pas à cette pute de Blanche-Neige, ça reste entre nous mais moi, j'ai de la coke en extra.
Ah ouais, Blanche-Neige?
Non, la drogue c'est mal.
Ouais, c'est vrai.
Après avoir pris des champis à crédit,
soudain,
on entend une fille qui crie. C'est là qu'elle nous dit, mais les gars, ça c'est pas grave, c'est le dernier tournage de Pinocchio si Freddy. Viens, on s'arrache, ça me fout le cafard. C'est là qu'on tombe sur un barge, barbe est un blafard. Pas toutes ces Dumbo, ça horrible. Avec sa bouille de clodo.
On a croisé Peter Pan qui faisait l'aumône complètement fini. Paraît qu'il est sorti de 15 ans tôle pour pédophilie.
Le clochard a lâché la bête
pour lui choper sa maille. La petite sirène travaille en aquarium à Dubaï.
Cendrillon est schizo, elle parle à des oiseaux. Elle voit des sœurs tarées bornées qui la harcèlent. La bête est zoophile et Bambi en profit. Crochet se gratte la couenne au sommet d'un gratte-ciel.
Dumbo a mis ses cornes d'ivoire au clou.
Dette de poker,
le roi lion vieillit beaucoup.
Tête de cocker,
le boss humeur en tirant son coup.
Trop pour le cœur,
Merlin s'est mis un flingue dans la bouche.
Harry Potter. Ah ok, il s'est suicidé Merlin.
Ah mais maintenant sans diplôme, si t'as pas fait Poudlard.
Assis sur un chêne de vieux homo, roupie. Un matin c'est rock, c'est rookie.
Et ça va les vieux.
Oh, vous avez morphé aussi, cette forêt était mieux dans les années hippies.
On y va?
Ouais. Des framboises et de la coca en extra.
Merde, les framboises.